Alors, Pierre-Yves, on était très nerveux sur Wall Street aujourd'hui, d'ailleurs, qui a clôturé en baisse. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'on craint un ralentissement économique international.
Bien, Paul, on craint, oui, en fait, parce que je te parlais de la courbe inversée hier, mais on craint surtout, si on regarde les courbes, des entreprises, leur valeur d'action, il y a comme une tendance. Mais premièrement, commençons par Louis Vachon, le PDG de la Banque nationale, qui dit « il n'y a pas de tuile, ça parlait d'une autre grosse tuile qui tombe, là ». Pour qu'il voit une récession dans les 12 prochains mois. Mais quand on regarde les indices, commence par le S&P 500, il y a une croissance dans les dernières années, mais on voit qu'en 2018, en septembre, on a atteint un plafond, et là, on tendait vers une certaine remontée, puis là, on a un plafonnement. Même chose pour le Nasdaq. Même chose pour les titres techno. Facebook, bon, évidemment, il y a eu les scandales, mais si tu vas dans Alphabet, même chose, il y a une descente, et là, on retourne au prix, où on s'approche des prix qu'on avait en 2018 vers août. Même chose pour Apple, on n'atteint pas encore 225$, on est à 188$, mais on voit la courbe par en bas et la remontée. Donc, on est tous dans une courbe de certains plateaux. Même chose pour Netflix, même chose pour Amazon. Évidemment, Snap qui est différent avec ce qui s'est passé parce que la valeur du produit est différente, mais on voit là que l'apogée de 2018, on ne réussit pas à le rattraper. Et là, avec ce qui se passe dans le monde, on attend la suite.
Je disais dans la section économique du New York Times, un observateur qui dit « En ce moment, on se demande si l'économie n'est pas à bout de souffle. » Et ça crée évidemment une peur et une pression sur les marchés boursiers.
Et c'est l'offre et la demande, hein, Paul? Donc, c'est pas une question de valeur tangible, de valeur intrinsèque ou de valeur fondamentale. C'est une question de qu'est-ce qu'on pense qui va arriver?
Exactement. La peur du lendemain. McDonald's, encore aujourd'hui, qui abandonne le lobbying pour contrôler le salaire minimum. Je dis encore aujourd'hui parce que tu en avais parlé hier, évidemment.
Oui, je t'avais parlé d'une acquisition, mais là, c'est intéressant parce que, dans le fond, ça me fait penser à Dollarama. Dollarama a dit, « Ah, nous, on s'objecte pas à la hausse du salaire minimum en même temps qu'on mettait des caisses automatiques à la disposition des clients. » Et chez McDo, les fameux panneaux technologiques dont on parlait hier, les iPads géants, puis les applications, puis la concentration du service, fait en sorte qu'on a besoin de moins de monde. Donc, on a un avantage concurrentiel par hasard par aux autres fast-food. Et donc, on dit, nous, se battre pour le salaire minimum, ben c'est peut-être pas économiquement logique et pour l'actionnaire, et pour l'apparence, et pour attirer des employés, parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre dans certains endroits, on avait même augmenté le salaire. Donc, dans le fond, McDonald's a l'air publiquement d'être en train de, aux États-Unis, revoir son image. Mais c'est surtout une question de tactique puis de logique. Si t'as des caisses électroniques, t'as un avantage concurrentiel, pourquoi t'irais te battre sur le salaire minimum alors que toi, ça t'aide? Dans le fond, si le salaire minimum augmente, oui, tu réduis ta marge d'un côté, mais d'un autre côté, tu as un avantage de coûts fixes, toi, qui sont des caisses électroniques. Ajoute à ça que, comme on parlait hier, le côté de renvoyer le risque aux franchisés fait en sorte que McDonald's, qui est une gestion d'image ou une gestion plutôt de franchise comme franchiseur, n'a plus le même risque lié au salaire minimum que lorsqu'il possédait des restaurants corporatifs. Alors, quand tu fais le calcul, tu mets tout dans la balance, tu te dis comme McDonald's, ben écoute, notre action est à 187$, il y a des analystes qui disent qu'on est un bon titre, qu'on va augmenter encore, et si on regarde nos marges, avec un salaire minimum qui croît avec l'inflation, on est capable de générer une marge intéressante pour nos actionnaires, surtout que le risque est transféré ailleurs. Donc, cette annonce-là, c'est spectaculaire, mais c'est simplement une question de positionnement stratégique.
Alors, il y a l'Institut de recherche sur l'autodétermination des peuples et les indépendances nationales, l'IRAI, qui ramène le débat sur la déclaration de revenus unique en disant que la mise sur pied d'une déclaration d'impôts unique pour les Québécois mènerait à des économies de 425 millions.
Évidemment, c'est l'Institut qui est fondé par Pierre-Carl Péladeau à l'époque. Donc, tu sais, l'Institut sur l'autodétermination des peuples, donc finalement, c'est du financement pour promouvoir l'indépendance. Et par conséquent, on s'imagine bien qu'un institut ne dira pas « ça prend une déclaration unique, mais il faudrait l'envoyer à Ottawa ». Tu comprends? Donc, on nous dit non, parce que là, sur le 425 millions économisés, il y aurait quand même 287 millions de dépenses fédérales. Mais quel aurait été le calcul si ça avait été des dépenses provinciales? Tu sais, faut pas oublier que l'ARC, l'Agence de revenus du Canada, a déjà un système informatique, des centres d'appel, des centres de recherche, des centres de gestion. On amortit les coûts fixes sur toutes les provinces et les territoires. Comment nous, comme province unique, on pourrait s'adonner à penser que c'est plus rentable qu'on gère tout ça au niveau purement financier? On dit que les particuliers économiseraient 39 millions, que les entreprises épargneraient 99 millions à cause de la simplification, mais on semble oublier une chose. Oui, on dit qu'on collecte plus de données au Québec avec Revenu Québec d'une certaine façon, Mais c'est-tu vrai qu'on peut pas négocier avec Ottawa? C'est-tu vrai qu'on pense qu'on pourrait pas dire à Ottawa, voici notre façon de percevoir les impôts, voici ce qu'on veut comme information, pouvez-vous l'ajouter? On va vous payer le coût supplémentaire que ça occasionne. Et tout ce qui est centre de surveillance, ben laissez ça au Québec, t'sais. Donc, c'est pas parce que on sous-traite cette affaire-là que ça nous enlève le fait d'être une province à part entière ou même de déterminer nos politiques fiscales. C'est un bureau, là. L'Agence de revenus du Canada, Paul, c'est un bureau, je reviens, je martèle, tous les comptables, l'Ordre des CPA en parle. Qu'est-ce qu'on attend pour avoir le courage, en deux gouvernements, de dire « on va avoir une déclaration unique ». Qu'est-ce qu'on attend? Est-ce que c'est purement politique? On gratte des cents pour sauver des 25 cents, des piastres à gauche, à droite, mais quand on a une vision très, très claire, où on pourrait sauver des centaines de millions de dollars, on n'a pas, comment je pourrais-je dire, ce qui va pour l'habiter, cette décision-là.
Ouais.
On n'est pas capable de la prendre.
Ouais. Ouais, ouais.
Donc, c'est purement une question politique,
ben oui,
d'indépendance ou même de gestion ou même d'image publique. Mais, t'sais.
Et comme le gouverneur général, ça fait combien d'années qu'on remet ça en question, pas seulement au Québec d'ailleurs et pas seulement les souverainistes. Il y a plusieurs provinces, ouais, qui disent, mais finalement, abolissons ce poste de gouverneur général.
Mais le gouverneur général vient avec le fait qu'on n'est pas une république, mais qu'on est une fédération canadienne issue de l'Angleterre.
Oui,
t'sais,
oui,
t'as
mais...
raison, on pourrait éliminer ça, revoir ça. Mais
certainement.
Ou simplement, moi, Paul, ce que je ferais avec le gouverneur général du Canada, je limiterais le compte de dépenses, pour commencer. Mais si on regarde d'un point de vue logique, des fois, nos institutions, notre historique, nous faut oublier que les autres provinces font autrement.
Mais c'est comme la réforme de électorale, du scrutin, c'est-à-dire à la proportionnelle.
Oui.
On en parle. Ça se passera jamais.
Qu'est-ce mais parce qu'il faut avoir ça? Le courage
mais
de
c'est
dire que
ça. C'est la même chose avec la déclaration de revenu unique. Écoute, on en parlait dans les années 70. Pas des farces.
Moi, Paul, on va voir ça de notre vivant, une déclaration.
Non. On va voir des voitures autonomes, là, où il y a plus, on n'a plus besoin de conduire, bien avant ça. On va voir le retour de l'homme sur la Lune ou de la femme. Parce que là,
l'élimination
ça
a l'air... de
non,
la monnaie
papier. Non, il va y avoir
papier.
Une femme sur la Lune, là. Mais on va voir tout ça. Pierre-Yves, mais on verra pas ça, une déclaration unique. De toute façon, tu devrais protéger tes amis comptables parce que ça a l'air que ça nous coûterait 10 % de moins. Pour faire la déclaration.
Mais tu sais, Paul, nous, les
si
comptables...
Si on a recours à un comptable...
Oui, mais Paul, nous faire épargner de l'argent à nos clients, là, on aime ça. On veut ça. Et d'ailleurs, l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec te le dit, Paul. Ah, on est pour ça.
C'est formidable. J'ai l'impression d'entendre un avocat qui dit...
Ouais, un avocat
chose.
Qui aime plaider, mais qui dit « je vais te charger moins cher ».
En tout cas, on verra pas ça de notre vivant, de ton vivant non plus. Merci et à demain.